Eh bien, je m'appelle Philippe Marquez, mais mon surnom, c'est Pépé. Donc tu peux m'appeler Pépé à l'antenne si tu veux. Même si je n'ai que 40 ans, mais je m'appelle Pépé depuis l'âge de 20 ans. Voilà, donc on peut continuer encore très longtemps.
Et donc Pépé, tu es membre de l'engrenage, de la SCOP l'engrenage. Oui. Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est cette SCOP. Déjà, qu'est-ce que c'est une SCOP pour les auditeurs qui ne savent pas forcément.
Donc une SCOP, c'est une société coopérative. Donc la particularité, c'est que ça ressemble... Pardon, j'ai une pastille dans la bouche. Ça ressemble à une association, mais c'est une entreprise. On va dire que c'est une entreprise coopérative, participative. Le nom vient plutôt d'une pratique qui s'appelait la société coopérative ouvrière de production. Et l'Union des SCOP a enlevé le mot ouvrier parce que ça gêne... de penser aux ouvriers, donc maintenant ça s'appelle coopérative de participation tout court. Mais en gros, c'est l'idée de... c'est les travailleurs qui détiennent l'outil de travail, et c'est pas donc, comme dans une association, des gens qui sont bénévoles qui détiennent l'association et qui décident pour l'asso. Là, c'est vrai, c'est vraiment l'équipe salariée qui va diriger l'entreprise, comme dans une entreprise, mais avec des valeurs qui sont beaucoup plus proches de l'associatif et de l'économie sociale et solidaire.
Avec une hiérarchie plus horizontale, du coup.
Oui, alors ça dépend des scopes, mais on va dire qu'il y a pas mal de scopes dans lesquels nous on se reconnaît, qui vont être sur des formes de salaire égalitaire, partage des tâches égalitaire. Il y a aussi le principe de une femme, un homme, une voix. Quel que soit l'argent qu'on a apporté au départ dans l'entreprise, on aura une voix et pas... des voies liées au capital, au nombre d'argent, d'euros qu'on aura mis dans l'entreprise. Donc voilà, il y a pas mal de valeurs comme ça qui font de la forme SCOP une forme qui peut être défendue par rapport à d'autres formes d'entreprise.
Donc l'engrenage, c'est une SCOP tourangelle, elle existe depuis longtemps. Comment ça s'est monté un petit peu le projet?
Donc c'est une SCOP tourangelle, elle a été créée en 2012. Elle existait sous forme associative depuis 2010. Ça s'est créé, on était trois au départ, il y a eu... pardon, je suis un peu malade, ça s'entend à la radio. qu'est-ce que je disais? Qui c'est qui suit? Alors bon, donc,
il y avait trois personnes.
donc une coopérative créée en 2012, qu'est-ce que tu m'avais demandé?
Comment ça s'était monté?
Oui c'est ça, comment ça s'est monté? Et ben, au départ, on est deux, on se dit qu'on veut créer à partir de 2010 une sorte de coopérative qui fait un peu comme la coopérative de Rennes qui s'appelle Le Pavé à l'époque, qui propose des conférences gesticulées, de la formation professionnelle, mais qu'on appelle des formations professionnelles, pour travailler à la question de l'éducation populaire politique. Et donc on décide de... on les rencontre et on les connaît, on décide de créer une structure parallèle à Tours, qui va s'appeler d'abord Un Pavé à Tours et qui ensuite deviendra L'Engrenage.
Donc l'idée, c'était vraiment ça. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec Rennes? Vous faites partie d'un réseau? Comment ça fonctionne sur une échelle un peu plus grande que le local?
Oui, depuis, il y a eu création d'un réseau. Il y a quatre structures qui se sont reconnues, puis cinq, et puis maintenant que de nouveau quatre qui sont reconnues faisant partie de ce réseau des coopératives d'éducation populaire. Il y a même aujourd'hui une association qui s'appelle La Trouvaille, qui est à Rennes. Voilà, on a essaimé un peu, on a été au plus fort 20 à 25 personnes à travailler dans ces coopératives d'éducation populaire.
Et il y a d'autres scopes en local pour le coup, avec qui vous avez plus ou moins de contacts ou qui sont un petit peu sur le même créneau que vous? Il y en a d'autres
Alors on va dire qu'il y a d'autres structures qui vont faire des travaux d'éducation populaire. Le monde des scopes, en fait, on est très en retard en région centre, visiblement, et notamment en Indre-et-Loire. Quand on a créé la SCOP en début des années 2010, on nous a dit qu'on était qu'on était peu nombreux. Là, j'ai pas moi suivi s'il y a eu d'autres créations, mais vous avez quelques structures comme ça. Là, je pense au court-circuit, le café-resto de la place de la Victoire, qui, je crois, se monte en SCOP ou est déjà en SCOP. Je sais plus où ils en sont. Je sais qu'il y a une coopérative aussi, une SCOP du côté de la rue Misola qui fait épicerie bio. Il y a du côté de Loche une coopérative. C'est pas une coopérative d'achat. Une Belettre, voilà, je cherchais le mot. La coopérative Belettre qui fait AMAP et qui fait pas mal de choses autour de l'agriculture paysanne et de l'alimentation biologique. Voilà ce que je connais, mais c'est pas une forme qui pour l'instant est très utilisée. alors qu'elle a pas mal d'intérêts.
Qu'elle a quand même des avantages. Mmh. L'éducation populaire, c'est parce que c'est quelque chose d'assez large, l'éducation populaire, comment on peut l'expliquer simplement ? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses au final, sous ce nom.
Simplement, c'est difficile. Mais, non, on a des formules, on va dire, l'éducation populaire, pour nous, c'est le travail de la démocratie. Ça veut dire, en gros, les démocraties, elles ne tombent pas du ciel, elles se construisent pas par hasard, en fait, c'est un travail. Elle est souvent en péril, elle peut être remise en question, et donc l'éducation populaire, c'est une façon que vont avoir des groupes de se confronter pour en permanence questionner la question politique, et en gros, pour faire vite, choisir la démocratie plutôt que la barbarie. Ce serait ça, l'éducation populaire politique. C'est pratiquer en permanence tous les jours la démocratie. Alors, les associations, c'est des lieux où on fait ça, on travaille. Enfin, quand les assos ne sont pas des assos qui sont montés pour créer des entreprises derrière, on va dire, lucratives, mais quand c'est dans l'esprit associatif, on va dire que c'est bien pour travailler cette question démocratique. On va y retrouver plein de pratiques qui vont pouvoir être considérées comme d'éducation populaire. Et nous, on ajoute souvent à notre définition le terme politique, parce qu'on considère que tout acte, justement, d'éducation à la démocratie est un acte politique, et que, en fait, beaucoup de choses sont politiques dans notre société, et qu'il faut retravailler en permanence la question démocratique.
L'organisation, c'est donc une SCOP. Il y a quand même des bénévoles. Il y a combien de membres actifs, combien de personnes travaillent autour de l'engrenage ?
Alors, c'est un fonctionnement particulier en SCOP. On est limité en nombre de ce qu'on appelle coopérateurs non salariés. Donc je suis moi-même non coopérateur non salarié, j'y ai bossé pendant 5 ans et puis depuis un an je suis coopérateur non salarié. Il y a 3 salariés aujourd'hui à la coopérative L'Engrenage, Tiffany, Émilie et Cécilia, et on est 2 coopérateurs non salariés. Donc, et on ne peut pas être plus, c'est ça qui est particulier, puisqu'il faut toujours qu'il y ait plus de salariés que de coopérateurs non salariés. Donc là elles sont 3, donc on peut être 2. Si jamais il y avait 2 autres salariés, on pourrait être un de plus coopérateur.
Et comment ça se passe ? Vous avez des rôles, chacun a son rôle plus ou moins défini ?
Alors, les coopérateurs non salariés doivent faire des émissions de radio.
C'est pas vrai, parce que Cécilia est déjà venue.
Oui, c'est vrai. Bon. Non, en fait, c'est tout nouveau, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps qu'on a des coopérateurs non salariés. Au départ, on était 3 à être tous salariés, on n'avait pas de coopérateurs non salariés. Depuis 2 ans maintenant, on est passé. Alors, on cherche notre rôle de coopérateur non salarié. Et c'est quelque chose qui est assez marrant, c'est-à-dire, autant dans les assos, quand vous êtes bénévole, bah, vous êtes vous êtes le groupe qui fait que l'asso existe. Autant dans les SCOP, bah, la particularité, c'est que quand vous n'êtes pas salarié, vous avez peu de pouvoir. Donc il faut chercher les modalités. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que font les collègues salariés, hein, évidemment. Mais on n'a pas un rôle quotidien. Et comme la SCOP est très sollicitée, qu'elle fait beaucoup de choses de façon professionnelle, nous, on va dire qu'on peut s'engager sur des formes. Non professionnel, non commercial, voilà, plutôt sur soit des rencontres, l'organisation d'événements, voilà, on n'a pas, on est sur ce type de rôle là, quoi.
Dans vos missions, on retrouve diverses formations qui sont organisées le long de l'année. S'adressent à qui ces formations ? C'est vraiment ouvert à tout le monde, ou alors vous essayez de toucher un public en particulier ?
Alors c'est ouvert à tous. Notre idéal serait que tout le monde puisse venir sur nos stages. On a des réalités économiques qui font que, évidemment, on a orienté ça sur la formation professionnelle pour que des gens salariés puissent venir utiliser leurs droits de formation et venir. Et en parallèle, bah, financer indirectement par les fonds de formation notre activité. Mais dans l'idéal, nous, on aimerait pouvoir accueillir tout le monde. Donc il y a des tarifs particuliers pour les gens en fonction de leur statut. Il y a des droits aussi pour les gens qui ne travaillent pas et qui peuvent être financés par le Pôle emploi ou par d'autres formes. Et puis il y a ceux qui vraiment n'ont aucune possibilité de droit. Et là, on trouve des arrangements. Ils peuvent nous payer en fromage de chèvre, en jus de raisin. Voilà, c'est possible.
Et les sujets de ces stages, comment vous mettez tous les 5 ? Par exemple, le prochain, c'est provoquer du pouvoir d'agir.
Ouais.
Comment vous arrivez à une formation sur ce thème-là ? C'est un brainstorming ?
Non, c'est vraiment une réponse aux besoins qu'on a pu identifier quand on a commencé les coopératives. Donc la première, elle se crée en 2007 à Rennes, et puis on continue. C'est-à-dire qu'au contact des personnes qu'elles soient militantes, salariées, de structures associatives ou dans le social ou dans la culture, voilà, on s'est rendu compte que très souvent on arrivait sur ces thématiques-là qu'on propose, c'est-à-dire comment on fait participer les gens, comment on les mobilise pour une action, comment on redonne du pouvoir d'agir dans notre société, comment on travaille la question démocratique, comment on mobilise un groupe, comment on partage par exemple la parole dans un groupe, quels sont les enjeux de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait... je sais pas, on a tout un travail à faire pour qu'un groupe, par exemple, vire les casse-pieds, ceux qui voudraient prendre le pouvoir, souvent des hommes blancs de cinquantaine d'années. Voilà, on a des... tout ce travail-là, en fait, il est venu de la confrontation en groupe, c'est-à-dire que nous, on se définit très peu comme des formateurs extérieurs ou des intervenants, on se définit plus souvent comme des colporteurs ou des artisans, on va dire, du travail de groupe. C'est-à-dire on a énormément appris au contact des groupes qu'on a vus. On avait évidemment déjà des choses qu'on avait dans notre besace quand on a commencé à bosser, mais c'est parce qu'on avait travaillé chacun pendant 10 ans dans des lieux, on avait appris énormément de choses dans les structures d'EducPop, et aujourd'hui on continue à chaque stage à apprendre des nouvelles choses, et donc on va les colporter auprès d'autres groupes pour à chaque fois faire avancer les choses. Et qu'est-ce que c'est? Bah c'est marrant parce que c'est le sujet du stage de, si je me trompe pas, de juin. Augmenter le pouvoir d'agir. Pour nous, le pouvoir d'agir, c'est pour transformer la société, c'est pour aller dans le sens, on va dire, d'un progrès social, humain, humaniste, voilà, et contre beaucoup, beaucoup de choses qui seraient trop... ça serait trop long de le développer.
Et ce soir, tu viens nous parler plus en particulier d'une conférence gesticulée, Mon plaisir ou comment la politique de ma ville m'a, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Déjà, une conférence gesticulée, c'est quelque chose que vous faites souvent avec l'engrenage. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mélange entre du théâtre et une conférence plus classique?
Oui, c'est un peu ça en fait. C'est un objet un peu hybride qui va aller chercher des codes un peu partout. Ça part d'une envie de parler de sujets de société, de sujets... universitaire, voilà, mais de ne pas le faire sous la forme conférence classique, c'est-à-dire, alors, ce qu'on appelle gesticuler, c'est évidemment qu'il va emprunter au théâtre, qu'il va emprunter à l'humour, des choses comme ça, mais surtout, ce qui est essentiel, c'est d'être dans un rapport autobiographique à la conférence, c'est-à-dire arriver à dire pourquoi ce sujet m'intéresse ou nous intéresse en tant que conférencier en tant que gesticulant, je ne sais pas comment on peut dire, et c'est parce qu'on est convaincu que c'est ça qui va intéresser les gens, c'est-à-dire que je sais pas, t'as des profs à l'université qui vont pendant 30 ans travailler sur un sujet, ils vont t'expliquer le sujet mais jamais te dire pourquoi ça les a touchés dans leur vie et qu'est-ce qui a fait que... Et quand on creuse ça, on se rend compte que c'est passionnant et que c'est ce parcours de vie, il va résonner, il va rentrer en résonance avec les parcours de vie des gens du public et qu'on se rend compte en fait que on comprend mieux. Ce que dit la personne, ça donne envie de réagir et parfois de s'organiser pour combattre ce qui est dit, dénoncé, parce que assez souvent quand même les conférences gesticulées, on va dire qu'elles vont être donner du pouvoir d'agir aux gens qui vont venir, hein. Ça ne sert pas que à dire regardez ça c'est horrible et puis rentrez chez vous et maintenant faites-en ce que vous voulez. En général c'est quand même qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on sort de ça, et voilà. Et pour compléter, y a plein de conférences gesticulées, des choses très différentes qui existent aujourd'hui sous cette terminologie-là. Nous, on va se reconnaître beaucoup dans les confs qui vont parler, notamment, qui vont incarner en fait un métier, un travail, une prise de conscience sur un sujet politique, et qui vont vouloir modifier ça. C'est-à-dire que, après, de façon un peu, on va dire réductrice ou simplificatrice, on pourrait dire, voilà, on se positionne plutôt sur un rapport on va dire anticapitaliste de la pratique politique, et donc les conférences gesticulées pour nous c'est des outils de lutte, des outils de conscientisation, mais aussi pour agir, quoi.
Une conférence comme celle-ci par exemple, comment ça se passe? Une conférence qui existe déjà, qui a déjà existé, où c'est vraiment créé pour l'occasion, c'est des one shot?
Non, c'est celle-là par exemple, c'est quelqu'un qu'on connaissait, qui s'est formé avec la SCOP Vent Debout à Toulouse, qui est un gars d'Angers, donc c'est marrant parce qu'il a fait, voilà, et qui s'est formé à la conférence gesticulée, je veux dire à Toulouse, et qui a choisi son sujet parce que c'est toujours un gars qui travaille avec une troupe de théâtre, qui intervient dans les quartiers dits entre guillemets sensibles, qu'on appelle prioritaires quand on fait partie de l'État, les quartiers prioritaires. Et il va raconter son vécu sur scène, il va raconter comment il a compris certaines choses, comment il a subi des désillusions, comment il a... Alors j'en parle plutôt bien là, mais je ne l'ai pas vu, je précise. Voilà, j'ai pu lire et échanger, donc c'est David Ropart. Pour nous c'était l'occasion qu'il vienne parler de ce sujet qui nous interpelle et qui interpelle beaucoup de gens qui travaillent dans les milieux d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cet outil qui s'appelle politique de la ville, et le mieux c'était d'inviter quelqu'un qui avait un discours là-dessus, qui avait travaillé une conférence là-dessus. Donc lui, je sais pas combien de fois il l'a fait, mais il a travaillé son sujet dans un stage et puis il en a abouti à une conférence qu'il a déjà jouée et on l'invite. En fait, on fait très peu, voire jamais, de conférences sur mesure. C'est difficile parce que comme il s'agit d'être dans un rapport autobiographique et comme il s'agit de choisir ce qui nous prend aux tripes et qu'on a envie d'expliquer sur scène, eh ben, on ne peut pas répondre par exemple à une sollicitation, et on a des gens qui nous appellent, qui nous disent ouais, ce serait bien, j'organise un festival sur le cerf-volant, est-ce que tu pourrais faire une conférence gesticulée sur le cerf-volant, voilà. Et bon, là j'exagère, il n'y a jamais eu cette demande, mais non, ça va pas comme ça, on ne peut pas tous savoir créer, tout, ouais. Sur tout, on ne peut pas tous s'autoriser à parler de quelque chose de vécu si on ne l'a pas vécu. Donc par contre, il y a une centaine de conférences gesticulées qui existent aujourd'hui en France. Elles ne sont pas toutes passées par les structures d'éducation populaire qu'on représente nous, hein, mais elles existent. Et puis elles sont très différentes. Des gens, ça va être plutôt de l'animation théâtrale, d'autres qui vont être plutôt sans humour. Voilà, il y a des variables. Ce qui compte, c'est vraiment que des gens s'autorisent à monter sur scène et à désacraliser la scène comme un objet artistique pour en faire un objet, un lieu en fait de démocratie.
Et c'est suivi d'un atelier le lendemain ?
Oui, alors en général la conf a lieu, et puis comme on permet à une personne seule ou à un groupe de personnes de parler pendant 2 heures et les écouter, voire des fois 3 ou 4 heures, on invite pour poursuivre et surtout faire continuer après le sujet de la conf et se dire maintenant comment on s'organise pour modifier cet état, ce fait-là qui a été dénoncé dans la conf, on propose des ateliers souvent après les conférences. Là, la particularité, c'est que j'en parle, voilà, mais l'atelier du lendemain, le 13 mai, il dure une journée, mais il est plutôt ouvert aux gens qui font partie des conseils citoyens de l'agglomération Tourangelle, que la SCOP L'Engrenage accompagne, entre guillemets, qu'elle a rencontré, qu'elle a essayé de faire son travail d'éducation populaire politique. Et donc là, c'est une journée pour les réunir tous les conseillers citoyens qui de l'agglomération peuvent se rendre sur cette journée-là.
Et les gens qui ont assisté à la conférence gesticulée peuvent aussi participer.
Bah, je crois pas cette fois.
Pas cette fois, mince.
Comme je suis pas. non, pas cette fois. Après, s'il y a des demandes énormes après la conf, on organisera peut-être un jour un atelier d'éducation populaire là-dessus.
C'est l'idée de pouvoir échanger.
Ouais.
L'idée de pouvoir échanger. Et donc, c'est ouvert à tout le monde, pareil, comme les formations, tout le monde peut venir, ou il y a quand même un type de personne plus ou moins visée par, par ces conférences, à qui ça parlera plus peut-être ?
Non, tout le monde peut venir. Je pense que la politique de la ville, ça a l'air d'être un sujet pointu, mais ça peut intéresser pas mal de gens, parce que, en gros, si vous avez habité dans un quartier populaire, si vous êtes issu du milieu populaire, et populaire, en fait, on est beaucoup plus nombreux qu'on le croit à être issu du milieu populaire, puisque ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui la classe moyenne, en fait, c'est une erreur de parler de classe moyenne, en fait. On va dire que, en gros, les gens qui vous disent dans les médias classe moyenne, c'est 60% de la population, c'est faux, en fait, c'est la classe populaire qui fait 60%. C'est qu'on veut la faire croire moyenne pour dire qu'on s'en sort pas si mal et qu'il y a des vrais pauvres derrière. Mais on va dire que dans la classe populaire, vous avez effectivement les gens qui sont très très démunis, puis vous avez ceux qui ont un peu plus de sous, puis vous avez ceux qui arrivent à vivre, mais qui sont quand même issus de la classe populaire. Donc c'est, en gros, vous mettez les ouvriers et les employés, vous arrivez presque à 60%. Pourquoi je disais ça ?
Oui, c'était ouvert à tous.
Et que ça peut intéresser tout le monde, parce que là, on a une politique d'État qui s'appelle la politique de la ville, qui va se concentrer, qui va financer des actions pour, en gros, agir dans les quartiers prioritaires, dits prioritaires. Mais on va avoir la même trace de cette politique-là pour toutes les autres pratiques, en fait, concernant la classe populaire. Donc c'est intéressant pour d'aller voir comment on fabrique, en fait, une politique spécifique pour les quartiers prioritaires pour pouvoir généraliser ensuite sur l'ensemble des pratiques politiques, quoi.
Ça sera à la Rabatière le 12 mai prochain.
À la Rabière.
Oui. Dit la Rabatière,
c'est... Ouais, c'est un beau mot en fait, à inventer un mélange entre la rabatterie et la Rabière.
Exactement. Mais c'est à la Rabière, au centre social de la Rabière, le 12 mai. C'est pareil, ça c'est un lieu qui est mis à votre disposition ou c'est un lieu où vous allez souvent. Pourquoi il est choisi pourquoi ce lieu?
Et ben là, j'en ai pas trop d'idées. Bah, je pense que c'est, je dirais, le centre social de la Rabière, c'est un des centres sociaux de l'agglomération. On va dire qu'il y a dans les quartiers prioritaires de la ville un centre social, souvent par quartier prioritaire. La Rabière, je pense qu'il y a des liens entre l'engrenage. On a peut-être sans doute cherché une salle et puis on a une difficulté à trouver des salles à Tours sur l'agglo quand même.
Pour pouvoir faire les conférences.
Donc on est plutôt content là par exemple de le faire avec un centre social qu'on apprécie et voilà, qui ont des belles salles et qui en plus sont dans la,
on va dire, il y a un vrai lien quoi.
Un des quartiers prioritaires où il y a le plus de monde, c'est au centre social, c'est la Rabière. Donc c'est intéressant et important que ça ait lieu là-bas.
Donc c'est le 12 mai, c'est à quelle heure? Il y a un tarif?
Alors c'est le 12 mai, c'est à 20h au centre social, c'est à partir de 14 ans, c'est ouvert à tous et toutes et c'est gratuit.
C'est gratuit pour tout le monde. Ouais. Ok, très bien. Et il y aura d'autres conférences gesticulées d'organiser avant la fin de la saison? C'est quelque chose qui est organisé assez ponctuellement ou alors c'est vraiment quand il y a un... Quand vous tenez quelque chose que vous avez découvert?
Oui, non, en fait, à l'engrenage, on décide de pas trop programmer. On fait plutôt comme ce qu'on fait depuis 5 ans maintenant. Quand on avance sur un sujet, qu'on travaille avec des groupes dans l'agglo ou ailleurs, on se dit, tiens, on pourrait proposer pour tous, ouvrir à tous, mais aussi aux gens avec qui on bosse, une soirée particulière, une soirée, voilà. Comme... Et donc, on invite un conférencier ou une conférencière ou un groupe de conférenciers pour venir présenter quelque chose. Donc là, ça a été le cas parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille avec les conseils citoyens. Et donc, on s'est dit, voilà, vu qu'il y a un conférencier qui travaille cette question-là, la politique de la ville, c'est important. Donc là, on n'a pas encore d'autres, on n'a pas une programmation, on va dire, comme
c'est
on
pas programmé à l'avance, non, c'est
habituel comme on a quoi habituel dans
très
d'autres
bien.
Structures.
Et ben le rendez-vous c'est donc le 12 mai à la Rabière, pas la Rabatière,
voilà.
Au centre social de Rabière. Merci d'être venu dans l'émission ce soir pour nous en parler.
Merci à vous de nous avoir invités.